Passons maintenant à la présentation du CCOMS, Centre collaborateur de l'OMS pour la psychiatrie, avec la présentation du programme Quality Rights. Et c'est Bérénice Stadel et Simon Wasserbach qui sont chargés de mission à l'OMS qui vont nous le présenter. 15 minutes.
C'est parti.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Simon Wasserbach, donc, je suis psychologue clinicien sur le pôle G21 de l'EPSM Lille Métropole et chargé de mission au CCEMS. Donc CCEMS pour Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale.
Donc je suis Bérénice Tadel, je suis également chargée de mission au CCEMS. Je travaille notamment donc, sur le programme Quality Rights et sur le programme médiateur de santé pair.
On va commencer par remercier M. Mariotti Puy-Ladesme de cette invitation. On est très heureux de pouvoir assister à ces discussions qui sont riches sur les droits, sur les pratiques, sur les aspects juridiques. Et puis on verra bien les liens avec le programme Quality Rights comme son titre l'indique. Mais en complément de toutes les discussions qu'on a pu avoir aujourd'hui, il me semble important de proposer des initiatives transposables sur le terrain et pour accompagner le changement de paradigme que Madame Azan évoquait tout à l'heure. Alors, donc, il s'agit d'un programme qui a été développé par une équipe de l'OMS à Genève, dont le but est de soutenir les pays dans l'évaluation et l'amélioration de la qualité et des droits de l'homme, de leur structure de santé mentale et d'accompagnement social. C'est un programme qui ne se limite pas aux hospitalisations en établissement de santé mentale, mais également dans les structures ambulatoires et les structures d'accompagnement social. Il a été construit, donc le programme a été publié en 2012 déjà. Il a été construit avec l'aide et la participation de représentants d'usagers, de représentants de famille, d'aidants, de professionnels et de juristes. C'est important d'avoir ça en tête puisque tout au long du programme, que ce soit dans la conception, dans la diffusion et dans la mise en place dans les différents pays qui y participent, ce principe de participation doit être respecté. Donc il a été mis à l'essai dans des pays à revenus faibles, moyens et élevés et il est destiné à être applicable à tous ces contextes. 5 objectifs spécifiques maintenant et vous verrez qu'il y a différents niveaux, différentes échelles d'application de ce programme qui est global et pour le moins ambitieux. Premier objectif spécifique, évaluer et améliorer la qualité des droits de l'homme dans les structures d'hospitalisation et les dispositifs ambulatoires en santé mentale et d'accompagnement social. Deuxième objectif, développer des services basés dans la communauté et orientés vers le rétablissement qui respecte et promeuve les droits de la personne. Troisième objectif, favoriser la compréhension et la promotion des droits de la personne, du rétablissement et de l'autonomie. Quatrième objectif, développer un mouvement de la société civile afin d'assurer la défense des droits et influencer les politiques de santé. Et enfin, réformer les politiques et législations nationales selon les bonnes pratiques, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les standards internationaux des droits de l'homme. Et comme vous le voyez, au niveau de la construction de ce programme-là, on peut l'imaginer et le mettre en place à un niveau local dans un service de santé mentale et pousser la réflexion jusqu'aux politiques de santé. Pour ce faire, dans l'observation, et c'est là où il faut qu'on fasse peut-être une petite précision, c'est un programme d'observation et de formation. Alors c'est important parce qu'on en a déjà discuté avec un certain nombre de personnes en France et dans les pays francophones, puisque le CCEMS a été mandaté pour développer le programme sur la France et les pays francophones. Il ne s'agit pas d'un processus de contrôle, il ne s'agit pas d'un processus de certification ni d'accréditation. Pour nous, les choses sont claires. On a l'objectif et la volonté de travailler avec des établissements volontaires qui s'inscrivent dans une évolution de leur pratique. Et donc on est vraiment dans l'accompagnement, dans l'observation et dans la formation. Donc le programme, comme je le disais tout à l'heure, s'articule sur la CDPH, M. Hérault en a parlé ce matin, qui a été ratifiée par la France en 2010. Et donc il est composé de 116 critères, je vais vous donner quelques exemples ensuite, qui permettent de coter 5 grands thèmes: niveau de vie adéquat, état de santé physique et mentale, capacité juridique, prévention de la violence et de la maltraitance, et autonomie et inclusion. Ces 5 grands thèmes sont basés sur des articles de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Quelques exemples de critères. Le tout premier, et vous voyez que ça part d'un niveau très pragmatique, très matériel, le bâtiment est bien entretenu, donc par exemple les fenêtres ne sont pas cassées, la peinture ne s'écaille pas, et vous avez une vérification du chauffage, des douches, de la literie, etc. Il y a des critères qui s'inscrivent à d'autres niveaux, comme le critère 2.2.6. Les personnes usagères des services connaissent et ont accès aux moyens d'expression de leurs opinions sur l'organisation des services et leur amélioration. Donc là, on est dans une logique de participation à l'organisation des soins ou à l'organisation des services. Troisième exemple, 3.2.6, les structures accompagnent l'accès des personnes suivies ou privées de liberté sans leur consentement libre et éclairé aux procédures de contestation et à une représentation juridique. Donc là, sur la formulation de ces critères, on a essayé de coller au mieux à la formulation internationale. Pour ce qui est du droit français, on a publié un petit addendum d'adaptation puisqu'il y a certains termes qui vont avoir une signification différente dans le droit français. Alors, pour ce qui a été évoqué, pour illustrer un petit peu tout ce que les critères vont venir balayer, il y a des choses qui ont été discutées cet après-midi notamment, dans le premier témoignage d'une collègue d'Israël. Elle évoquait par exemple les techniques de désescalade, donc il va y avoir des indicateurs là-dessus, ou des critères tout au moins. Les propositions d'activités sociales, culturelles pour éviter l'ennui, c'est présent dans le programme. Les questions qu'évoquait Madame Azan tout à l'heure sur le port du pyjama, le respect de la vie privée, constituent également des critères qui sont présents dans les 116 que je vous présente. Alors ça, je vais passer parce qu'on n'aura pas le temps. Le tableau que vous venez de voir très rapidement, c'est une espèce de représentation visuelle de ce que peut donner l'évaluation et qui permet, soit en lisant par critère, soit en lisant par service à l'intérieur d'un établissement, d'avoir une image parlante de la situation, de pouvoir proposer un diagnostic à un établissement en mettant en avant les points positifs et en soulignant les éléments qui peuvent être travaillés et améliorés. Donc les caractéristiques de ce programme, objectifs de changement au niveau local, services de santé, jusqu'au niveau national et international. Approche participative et inclusive, c'est extrêmement important. On en reviendra sur les différentes étapes que nous sommes en train de mettre en place en France et en Belgique, et le développement d'un réseau international. Pour ce faire, l'équipe de Genève à l'OMS a développé un toolkit, donc une espèce de boîte à outils, avec déjà 5 documents que nous avons traduits. Le document que l'on présentait en plus grand avec le liseré bleu représente tout le contexte, tout l'historique, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l'ensemble des indicateurs et une aide pour mettre en place ce programme, ainsi que 4 documents techniques qui permettent une aide et un guide aux entretiens, à l'observation, à l'analyse de documents, puisque la cotation des critères, finalement, se fait sur ces 3 modalités, des entretiens avec des usagers, avec des aidants, avec des professionnels, ainsi que l'analyse de la documentation de la structure et l'observation sur place. Pour terminer, des formulaires de rapport qui permettent d'aider à l'écriture d'un rapport, soit au niveau d'un établissement, soit au niveau national. L'idée étant que ce ne soit pas que des chercheurs qui puissent s'emparer de ce programme-là, mais pourquoi pas le milieu associatif, grâce à cette aide technique. Je vous ai parlé de l'observation, maintenant je passe à la formation. Un ensemble de modules de formation, tous ne sont pas encore listés aujourd'hui, a été proposé par l'OMS, ces modules de formation ayant été écrits avec des représentants d'usagers, d'aidants, des professionnels, des juristes. L'idée étant, après la phase d'observation, de pouvoir proposer à une structure, à un établissement ou à un ensemble d'établissements des modules dédiés sur ce que l'observation aura montré, d'accompagnement aussi aux demandes des établissements. Là, ça n'est pas listé, mais on sait qu'il y a une grande réflexion sur l'isolement et la contention actuellement. Il y aura un module dédié qui reprendra une analyse internationale, un état des lieux et les alternatives de ce qui peut se mettre en place. Et encore une fois, ce qui est intéressant, ce qui peut être proposé dans ce programme, c'est de répondre à la question du comment. Il peut y avoir une volonté partagée, mais souvent, quand on discute avec les équipes, on entend, on est partant, mais on ne sait pas comment faire. L'idée, c'est de donner des éléments d'information là-dessus. En plus, il y a une plateforme en ligne qui sera prochainement disponible, on l'espère, en tout cas courant 2017, qui permettra d'accéder à tous les documents dont je vous parle de manière libre. Donc, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas une équipe d'observation et de formation qui se déplace dans l'établissement, au niveau du milieu associatif, au niveau des professionnels, ils pourront se saisir de toutes ces notions et de toutes ces illustrations de bonnes pratiques. une dernière slide sur le développement à l'international pour vous montrer que ça, il s'agit bien d'un programme OMS et donc d'un programme international. Un certain nombre de pays ont déjà mis en place ce programme à différentes échelles. Si on prend la Somalie ou la Grèce, ce sera à l'échelle d'un établissement. Si on prend l'exemple des Asturies, donc la région au nord de l'Espagne, tous les établissements de santé mentale des Asturies ont participé, ont mis en place cette évaluation et cette formation. On a quelques exemples un petit peu plus précis.
Alors, en Inde notamment, il y a un État de l'Inde qui a décidé de l'implémenter sur l'ensemble de ses établissements. Ça s'est étalé sur 2 ans. Et les résultats, les premiers résultats ont déjà été communiqués à l'OMS qui nous les a répercutés. Donc, comme vous pouvez voir, un certain nombre de choses ont été mises en place au cours de ces 2 ans. Certaines ont été mises en place assez rapidement. On constate que donc une grande partie, 402 professionnels sur 495, ont été formés sur les différentes questions que nous venons d'aborder. 313 professionnels ont été formés spécifiquement à la question du rétablissement en santé mentale. Ils ont également recruté 21 personnes en tant que pères aidants. Et ça, c'était quelque chose d'assez novateur dans le contexte de l'État en question. Des groupes d'auto-support ont été créés par et pour les familles, et donc qui continuent encore aujourd'hui. D'autres groupes d'auto-support ont été créés pour et par les usagers. Globalement, les retours des usagers des services ainsi que des familles et des professionnels sont extrêmement positifs. On dispose d'un certain nombre d'éléments de verbatim qui sont très intéressants. Et puis, le travail de formation des professionnels, des usagers et des familles à la question, sur la question du rétablissement et sur les notions de respect des droits de l'homme, ainsi que l'évaluation des effets de la mise en place du kit, se poursuivent encore à ce jour. Donc, c'est un travail en continu qui a permis une transformation en profondeur à l'échelon d'un État. Enfin, d'un État de l'Inde. Sinon, nous, au niveau du CCOMS, où nous en sommes aujourd'hui, alors nous avons décidé de développer le toolkit. Il a fallu tout d'abord le traduire, car il n'était pas disponible en français. Et puis, nous avons terminé la traduction du toolkit, mais maintenant, nous allons entamer la traduction des nombreux modules de formation dont Simon vous parlait il y a un instant. Parallèlement, nous avons débuté le test du toolkit sur un territoire francophone. Pour une première étape, nous le testons en Belgique, sur le CNP Saint-Martin, qui se trouve à Namur. Nous sommes en plein dans le début de ce test, puisque nous avons rendu 2 fois visite à l'établissement pour préparer la visite qui nous permettra d'implémenter le kit. Donc, comme vous le voyez ensuite, nous avons présenté le programme à la direction, nous avons débuté la formation des équipes, et la semaine prochaine, 1er et 2 décembre, nous nous rendons sur place, nous serons une équipe de 8 personnes, 4 d'entre nous seront des professionnels. Une partie d'entre nous également seront des représentants des usagers associatifs. Et nous resterons 2 jours. Nous rencontrerons aussi bien des usagers que des familles, que des professionnels. Et nous utiliserons les différents documents que Simon vous a présentés, notamment le guide d'entretien. Et nous avons également demandé l'accès à un certain nombre de documents qui nous seront fournis pour l'étude des documents intérieurs à une unité. J'ai oublié de préciser que nous nous limitons à une unité, qui est une unité fermée. Nous avons prévu ensuite de nous réunir pour créer un document de rapport dans une optique de consensus entre nos différents points de vue, après ces 2 jours d'observation et d'entretien. Nous reviendrons évidemment vers l'établissement pour présenter les résultats, le retour, le feedback sur la passation du kit aussi bien aux usagers qu'aux professionnels qu'aux familles. Et puis enfin, donc dans une dernière démarche, nous allons proposer des modules de formation en concertation avec à nouveau les différents acteurs sur place, de voir quels seraient les modules de formation les plus intéressants. Et puis la suite, eh bien...
1 minute et demie.
Ce sera parfait pour conclure, merci. On a communiqué sur ce programme depuis quelques mois, depuis que nous avons achevé la traduction. Là, comme vous le voyez, on est en train de terminer de s'approprier ces outils, puisqu'ils sont intéressants, mais peut-être complexes dans un premier rapport. Et là, cette première visite, en tout cas sur un territoire francophone, va nous permettre de terminer notre propre formation à ce programme. On a déjà été contacté par un certain nombre d'établissements français qui, dans leur politique d'établissement, dans leur volonté d'évolution de leur propre pratique, se sont rapprochés de nous. Et on sera en mesure de répondre à ces demandes dès le premier semestre 2017.
Merci pour cette présentation.